La radiodiffusion française vous invite à écouter.
Patrice Chéreau, le perpétuel commencement.
À quoi vous attachez-vous le plus quand vous montez un spectacle? Quel est votre principal souci?
À y prendre très violemment mon plaisir, enfin, d'une certaine façon. C'était aussi bien dans la recherche intellectuelle que dans la recherche esthétique. Enfin, je sais une chose, c'est que on ne s'est jamais arrêté de travailler. Du premier jour à maintenant, je ne me suis jamais arrêté.
Chéreau à ses débuts. Son premier succès à Paris, un Labiche, revu à la façon de Bertolt Brecht. Il avait 22 ans. Ses premiers articles dans la presse internationale, il n'en avait pas 25. Une de ses expressions favorites à l'époque, « Nous sommes chauffés à blanc ». Une autre encore résume bien son acharnement. « Nous commençons plus tôt demain matin, c'est une chance, on pourra finir plus tard ce soir ». Généralement, il dirigeait ses comédiens debout, au plus proche d'eux, et on a cessé de parler de l'énergie qu'il faisait passer autour de lui. Pour être plus exact, il faudrait dire qu'il ne voulait pas recycler dans le travail d'aujourd'hui l'énergie utilisée dans le travail d'hier. Il préparait toujours plusieurs projets à la fois, projets de théâtre bien sûr, d'opéra aussi parce qu'il fallait pousser les murs du théâtre et parce que l'opéra était le seul spectacle rituel de l'Occident. Ces représentations du Ring avec Boulez en 1975 ont fini par retourner le public de Beyrouth. Et il aimait, mais autrement, le cinéma. On se souvient de L'homme blessé, de La reine Margot, et tout autant de ses derniers films, simples comme des épures, Ceux qui m'aiment prendront le train, Son frère. À chaque fois, c'était un commencement. Il ne voulait pas s'entendre dire qu'il ne changeait pas, qu'il était toujours au sommet. Il était plusieurs routes, plusieurs mondes à la fois. Il était la rencontre de tous ceux à qui il fit du bien.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
En compagnie de Georges Banu, bonjour Georges.
Bonjour.
On va pas faire les vieux de la vieille, parce que beaucoup n'auront pas la chance de voir in vivo un spectacle de Chéreau. Et une comparaison vous vient spontanément à l'esprit.
Récemment, j'ai vu le documentaire avec Xavier Dolan. Et quand j'ai vu Xavier Dolan, je me suis dit, je pense que Chéreau devait être comme lui. C'est-à-dire, à même d'animer un groupe, de mettre de l'énergie à toute une équipe et à croire dans son étoile. Parce que Dolan croit dans son étoile à 17 ans, presque comme à l'âge de Chéreau. Il projette de faire un film en disant « J'irai à Cannes ». Donc Chéreau est un peu pareil. Et je pense que la formule adoptée par Dolan, « Je suis tenu à l'impossible », convient très bien à Chéreau, non seulement à ses débuts, mais jusqu'à la fin.
Vous avez consacré à Chéreau un livre collectif, à la suite d'une rencontre internationale à Thessalonique, c'est aux éditions Actes Sud. Sur le même modèle, il y a un livre collectif qui paraît aux presses universitaires de Rennes. Et dans ces deux livres, on voit bien sûr l'inventaire des lieux qu'a marqué Chéreau. Il a commencé dans la banlieue parisienne, à Sartrouville, dans une municipalité communiste, au-dessus d'une salle de sport. Vous l'avez rencontré en Italie.
Moi, je l'ai rencontré en Italie, justement après le triomphe les triomphes de Sartrouville où il découvre toute une esthétique. Et en Italie, j'ai une bourse à Milan et quelqu'un du Piccolo me dit il faut que tu viennes voir un jeune metteur en scène qui a un peu ton âge et tu vas le voir travailler. Et Chéreau a accepté que j'assiste à une répétition. Et on n'est resté pas aussi intime que je le souhaitais, parce que je suis parti en Roumanie. Mais c'est vrai que ce souvenir initial, ce souvenir des origines, ne m'a jamais abandonné.
Vous parlez d'un triangle.
Chéreau lui-même se dessinait comme un électron libre sur le triangle de la mise en scène. C'est une figure magnifique. Le triangle de la mise en scène, disait-il, Paris, Berlin, Milan. Paris, lui et l'école française, Jouvet, Copeau. Berlin, la grande tradition allemande, en particulier Brecht pour son époque. Et Milan, celui qui va rester jusqu'à la fin son maître, Giorgio Strehler.
Dorénavant installé en France, Georges Banu, vous retrouvez Chéreau à Villeurbanne, où il a la co-direction des théâtres nationaux populaires qui vient de s'y installer avec Roger Planchon.
Oui, c'est assez intéressant. Une fois, Planchon répondait à une des questions dans un débat à Moscou, comme ça, et il disait « Dites-moi, qui aurait eu le courage d'inviter un jeune homme plus talentueux que soi, quand lui se sentait en crise ?» Donc, il y a eu cette entente entre un metteur en scène extrêmement respecté, comme c'était Planchon, et une sorte de furie, de héros romantique, Chéreau. Et Chéreau, à ce moment-là, va se trouver dans une position intermédiaire, un pied dans l'institution et en même temps libre. Et à Villeurbanne, il faut bien dire qu'il signe ses grands chefs-d'œuvre et en particulier le renouveau européen de cet auteur considéré secondaire jusqu'à lui, Marivaux. Et c'est peut-être son spectacle indépassable reste la dispute.
Tout de même, il me parlait, même s'il n'aimait pas regarder en arrière, de l'époque qui va venir, celle de Nanterre, comme d'un âge d'or. Parce qu'en 1981, le ministre de la Culture de l'époque, Jacques Lang, lui fournit les moyens qui lui permettent de formaliser le projet qu'il avait déjà eu sous la droite pour Nanterre. Et alors, Nanterre, c'est un immense paquebot, les Amandiers. Alors, il y a le hall, le rez-de-chaussée, où il y a toujours du monde dans ces années 1980.
Oui.
Vous vous souvenez de répétitions
avec
Piccoli?
Je me souviens de répétitions. J'étais une fois, je traînais par là parce que j'étais jeune, j'avais plus de temps. Et un jour, donc, Jane Birkin arrive. Il répétait la fausse suivante. On était là, on prenait un pot avec Piccoli et Charlotte Gainsbourg s'avance sur la terrasse. Et à l'époque, Jane Birkin était très critiquée pour le fait d'avoir laissé Charlotte débuter si jeune. Et à ce moment-là, Piccoli dit à Charlotte « Bienvenue dans la famille ». Et Chéreau a été très ému par cette phrase de Piccoli.
Parce que son objectif, c'était aussi de repérer des jeunes, de faire en sorte qu'ils deviennent eux-mêmes. Et au sous-sol, il y avait justement, dans ce paquebot des Amandiers, quelque chose comme la salle des machines. C'était l'école atelier. L'aura de Chéreau était telle que le nombre des candidats était ahurissant. Vincent Pérez hasarde le chiffre de 3600 candidats.
Ça, Chéreau, c'est des chiffres fantasques.
À la roumaine, soit le change menu. Et Chéreau lui-même, il sait pas bien.
Je ne sais pas si c'était 2000, c'était plus de 1000 en tout cas.
2003, c'est le chiffre qui apparaît. Bon,
une année, oui, ça a été comme ça. L'année d'après, ça s'est calmé. Mais quand on a été confronté à cet énorme chiffre, on est confronté à comment définir un critère de choix. Oui. Et en fait, ce critère, je pense qu'on n'est pas vraiment arrivé à l'établir. Et je pense que ça n'a marché que le jour où on a accepté de se tromper en disant « bon, ben, ça sera un choix, on va faire ce qu'on peut ». Et qu'on pouvait choisir des gens parce qu'ils étaient très doués, de même qu'on pouvait en choisir parce qu'ils ne savaient rien faire. Et qu'on essayait de panacher.
Donc, c'est la diversité qui vous intéresse en définitive.
La diversité, pas tant que ça, parce que le premier groupe, on les a choisis très très divers, et ils étaient indistribuables.
On leur faisait faire du théâtre et du cinéma. Donc l'idée était de refuser absolument toute spécialisation dans l'un ou dans l'autre. Et à un moment donné, pour des raisons de confort, on voyait des comédiens ou des comédiennes dire « Ah, moi, s'il n'y a pas la caméra, je ne comprends pas, s'il n'y a pas le public, je ne sais pas quoi faire ». Le théâtre, s'il faut gueuler comme ça, ça m'intéresse pas. Ce que j'adore, c'est quand on est filmé par la caméra.
À mon avis, il fait chaud parce que ça nous aurait fait rire si au mois d'août il avait fait froid.
On a essayé de lutter, par exemple, contre une spécialisation trop précoce. Mais il y en a qui rejetaient le théâtre et d'autres qui rejetaient le cinéma.
Vous en connaissez certains, Marc City, Laurent Gréville, Marianne Denicourt, Valeria Bruni-Tedeschi, Bruno Todeschini, Agnès Jaoui, Vincent Pérez.
Chéreau et Pierre Roman, qui étaient l'âme de cette école-atelier, ne se sont pas tant trompés. Et ce sont des acteurs qui étaient invités à aller d'un monde à l'autre, caméra, plateau.
Oui, justement, mais c'était, au fond, c'était une école entièrement autobiographique, dans le sens où Chéreau lui-même voulait faire ce passage, ce va-et-vient entre théâtre et cinéma, et il considère que les acteurs doivent être formés, doivent être entraînés pour faire ce passage. C'est c'est un peu son utopie, parce qu'au fond, à quelques exceptions près, les acteurs se spécialisent ensuite pour des raisons diverses. Mais il faut bien dire qu'à la même époque, il y avait l'autre pôle à Paris, c'était Chaillot, où Jacques Lang avait nommé Vitesse, et il y avait deux écoles, l'école Vitesse qui a donner aussi un nombre très important des acteurs pour la scène française et l'école de Chaillot, deux approches différentes.
Et Vitesse, auquel vous étiez très lié, admirait Chéreau.
Vitesse admirait sincèrement Chéreau.
Et l'inverse
À l'inverse, je ne suis pas certain. Mais dans Le Théâtre en Europe, la revue de Strehler, Vitesse a écrit un des plus beaux textes sur Chéreau et la confiance faite au théâtre. Et je pense qu'entre les deux, il y avait une sorte de compétition tacite.
Nanterre, c'est l'allemand Heiner Müller, c'est Jean Genet dont Chéreau redonne les paravents, et Bernard-Marie Coltès, l'auteur contemporain qui l'attendait de rencontrer et que les jeunes qui se destinent au théâtre aujourd'hui adorent. Coltès, beau, mort jeune, oui. Immense
talent. En même temps, Chéreau, comme Strehler, tout ça, voulait reconstituer le fameux couple des origines de la mise en scène, Stanislavski-Tchekhov. Et Coltès sera son Tchekhov.
Coltès, interrogé par Lucien Atoun.
Alors vous pratiquiez avec Chéreau quelques 5 ou 6 ans, et en réalité, vous vous connaissez très peu.
Oui, assez peu comme personne. Mais ça dépend, je sais pas. Il y a tellement de manières de connaître les gens. Si, je le connais, mais par le moyen du théâtre, qui est une manière très limitée de connaître les gens.
C'est-à-dire, on peut dire que Chéreau a un sens inné de l'air du temps.
Il a en tous les cas une intuition énorme. C'est ce que je préfère chez lui. Il a une intuition phénoménale. Des choses, même des choses qu'il connaît pas. C'est ça qui est bien.
Il en parle d'ailleurs très bien à ce moment-là.
Et il en parle très bien et il n'a pas besoin qu'on lui explique. Un acteur peut jouer un criminel, il n'a pas besoin d'avoir le début de la connaissance de ce que c'est que le meurtre. Il a besoin d'une intuition énorme pour comprendre, pour saisir quelque chose. Et moi, tous les mondes dont je parle, je ne les connais pas tant que ça. Et lui, c'est pareil. Il peut parler de... Je suis persuadé qu'il pourrait parler de n'importe quel univers, exactement comme un bon acteur est capable de jouer n'importe quel rôle.
Étrange rapport de clair-obscur. Chéreau vous a souvent dit, Georges Panu, j'ai du mal avec beaucoup d'aspects de l'univers de Bernard-Marie Coltès.
Je pense que vous l'aviez dit au début, Chéreau aimait la difficulté. Il aimait de la difficulté et il aimait se heurter à des auteurs qui lui résistaient. Il ne travaillait pas dans la séduction immédiate. Et c'est pour ça que le travail sur Coltès le séduisait, parce qu'il s'agissait de sculpter dans la pierre de ces textes où il ne se sentait pas d'emblée à l'aise. Mais ce que je voulais dire par rapport à la voix de Chéreau qu'on entend, je retrouve la même chose qu'on disait dans un film sur Dolan il y a quelques jours, qu'on entend, il y a une douceur dans la voix de Chéreau qu'il n'avait pas quand il répétait. Et ce qu'on disait, c'est la même chose, que Dolan est extrêmement calme, paisible dans la vie privée et extrêmement actif, un émetteur d'énergie. Et je pense que Chéreau, quand on l'a vu dans le fameux film de la manufacture des œillets sur la solitude des champs de coton, on voit comment il transmet de l'énergie.
Alors justement, on va s'arrêter un instant sur la solitude des champs de coton. À l'origine, un dealer et un client.
Oui.
Un noir et un blanc, dans le texte de Coltès. À l'origine, le blanc, dans la première version, c'est Laurent Mallet. Isaac de Bancolet joue, c'est un noir,
oui.
Le dealer. Il y a eu un moment de difficulté entre Coltès et Chéreau, quand Chéreau a fait une deuxième version.
Magnifique.
Oui, mais où il a remplacé le noir, c'est lui qui jouait.
C'est le problème qui est revenu souvent.
Et parce que Coltès, il idéalisait un peu les noirs, et il n'idéalisait pas Chéreau.
Oui, mais il tenait à ce que la présence noire soit perceptible par le spectateur.
L'extrait de répétition qu'on va entendre, vous racontez que les répétitions avec Chéreau peuvent être rugueuses, se produit au moment de la troisième reprise. Bernard-Marie Coltès est mort, et c'est Pascal Grégory qui joue le rôle du client.
Et là, Chéreau va se disputer presque avec Pascal Grégory. Parce que Coltès, il avait mis beaucoup de paravent dans son texte. C'était peut-être parti d'une situation de drague, sans l'idée. Mais le mot désir, le mot sexe n'apparaissait pas si aisément que ça, en tout cas, aux yeux de Grégory.
Hein. Qu'est-ce que vous vendez, du désir?
Voilà.
Oh, putain, j'y arrive pas. Oh, c'est chiant.
Où est le problème, là?
Le problème, c'est que je comprends tout.
Oui.
Moi.
Oui.
Je comprends tout ça.
Bon.
Mais avec les mots qui sont écrits, là, à ce moment précis, je n'arrive pas à l'exprimer avec ces mots-là. Voilà, le problème est là. C'est un problème simple. C'est dingue.
De quoi on parle depuis le début? Quel est le monsieur qui dit pour la première fois le mot sexe dans la pièce, à cet endroit-là?
Je le dis là, moi.
Ben oui. Dans cette réplique-là?
Dans cette réplique-là?
Ben oui.
Je lui en ai pas parlé avant.
Non, t'as pas parlé. Et alors? Tu deviens naïf, là, brusquement, sur mon doigt.
Non, je cherche.
Mais comment ça, tu cherches?
Je cherche parce que cette réplique me fait peur, c'est pour ça. Alors, je cherche le maximum de renseignements, de trucs, de... Je ne comprends pas, parce que peut-être que je suis borné, hein.
Non, mais c'est parce que tu ne veux pas comprendre, c'est parce que faut mettre un nom très simple sur ce truc. C'est tout. Faut mettre un nom très, très simple sur ton désir dans cette réplique-là. Sinon, tu rends la tâche impossible.
Bon, bah d'accord, ok.
Non, mais tu comprends ce que je veux dire?
D'accord.
Ça parle que de ça.
D'accord.
Dès l'instant où les mots brute et demoiselle, coquette et brute ont été prononcés, et moi je relance brute et demoiselle, je veux dire, on ne parle que d'une chose totalement... qui a un désir est totalement érotisé.
Extrait d'un documentaire de Stéphane Metz. Vous imaginez le dialogue corps à corps, à deux, parce qu'il aimait bien les répétitions à deux. Puis là, c'est une pièce à deux. Chéreau qui sert de très près le malheureux Pascal Grégory.
En plus, j'ai assisté à l'évolution. J'ai vu la première fois à Nanterre, dans la solitude. Il y avait des problèmes, sincèrement, de compréhension du texte. Bancolé était limite. Ensuite, le spectacle est venu à Bucarest, dans une manifestation que j'ai organisée avec Patrice Martinet et Gérard de Sarthe, où, réplique comique de Chéreau, tout le monde lui rend hommage pour un spectacle très simple, uniquement avec ses fameux projecteurs RMI, et Chéreau dit à ce moment-là: arrêtez de me rendre hommage pour un spectacle sans décor, parce qu'à Paris j'avais un décor. Et surprise étonnante, un an et demi plus tard, il fait la solitude sans décor du tout, en plongeant et lui et Grégory dans ce jeu sportif, violent, physique. Et moi, je l'ai vu dans la loge après le spectacle. Il était rarement, j'ai vu un acteur aussi épuisé après la solitude à la manufacture des œuvres.
Je voudrais qu'on parle de son travail à l'opéra, donc des opéras classiques, d'autres moins connus. Par exemple, Yana Tchèque, Les Souvenirs de la Maison des Morts. Imaginez, Georges Bénu, là vous n'avez pas assisté aux répétitions, l'étonnement des chanteurs qui se retrouvent au début à devoir parler avec les acteurs. Les Souvenirs de la Maison des Morts, ce sont les souvenirs du bagne de Dostoïevski, de la prison. Ils doivent s'exprimer comme ça, ils ne sont pas habitués du tout à ça.
Chéreau, je pense qu'il est à l'origine, avec Strehler, d'ailleurs c'est son maître, du renouveau réel, mais pas un peu poudre aux yeux de certains metteurs en scène actuels, du renouveau du jeu et de la pensée de l'opéra. La victoire mythologique de la tétralogie à Bayreuth vient du fait qu'il est parti de Glucksmann, des maîtres penseurs de Glucksmann, qui a analysé Wagner et qu'ensemble avec Peduzzi, ils ont proposé une vision tout à fait différente du ring, qui a mis 7 ans pour se convertir en un triomphe. Pour la dernière fois, Bernard Dort m'a raconté qu'il a été salué 45 minutes.
Le même public peut changer en l'espace de quelques années.
Ça s'est évolué, mais en même temps, il dirigeait, on voit dans le film magnifique consacré à la Maison des Morts, on voit qu'il dirige les chanteurs comme les acteurs. Il ne fait aucune différence. Et Lucio Silla, qui est un chef-d'œuvre du jeune Mozart, il a travaillé exactement comme un acteur, et comme avec des acteurs, et une amie qui chantait expliquer comment les chanteurs inventaient des trucs pour tromper Chéreau, qui leur demandait trop de choses.
Alors n'oubliez pas que la direction de l'orchestre est assurée pour Jana Tchèque. Ici, on va entendre l'orchestre de chambre Mahler à Aix-en-Provence en 2007, comme pour le Ring en 1975 par Pierre Boulez.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Alors il est temps d'entendre le scénographe Richard Peduzzi, une relation qui a commencé dès la jeunesse entre Chéreau et lui.
J'associe quand même cette relation à certains peintres de la Renaissance qui peignaient à deux sur le même tableau. Alors ce que je trouve amusant, si vous voulez, c'est de se dire au fond, maintenant, quand on fait un spectacle, on peint à deux sur le même propos. Dans un atelier, il n'y avait pas deux peintres, mais il y avait plusieurs personnes qui préparaient les toiles, qui les enduisaient, qui les tendaient, qui travaillaient avec les peintres. Et je vous disais, c'est un peu ça, si vous voulez, ma vue du théâtre, de la dramaturgie, de la mise en scène, de la scénographie et tout ce qui est lié comme ça.
Atelier, Georges Banu, c'est un mot qu'on a beaucoup utilisé. Famille, c'est un mot qu'on a beaucoup utilisé. Sauf que, au moment du départ de Nanterre, 1990, Pierre Roman meurt, Hervé Guibert meurt, Bernard-Marie Coltès est mort. C'est un survivant du sida, et en même temps, c'est quelqu'un qui est en quête de renouveau. Il ne regarde pas en arrière, disiez-vous.
Il regarde pas en arrière, il est vraiment, moi je le comparais à une sorte de héros éternellement jeune, parce que il veut pas s'incruster dans une famille, il y a des strates dans les familles de Chéreau, il trouve de nouveaux acteurs et il pense que la voie à suivre, c'est après avoir fait une sorte de pacte hybride avec Planchon, avec un grand succès, après l'expérience de Nanterre, il est temps d'accéder à la solitude de l'artiste héroïque qu'il était, et il va avancer en signant certains de ses plus grands spectacles, tout à fait seul, sans des structures sur lesquelles s'appuyer, et cela va le conduire à la découverte d'un auteur qu'il cherchait après Coltès et qu'il ne trouvait pas, c'est Ion Fosse avec les deux grands spectacles, Rêve d'automne et surtout I Am the Wind.
Alors, John Fosse, c'est un auteur norvégien.
Oui.
Et il va monter Rêve d'automne, dont vous nous demandiez un extrait, Georges Banu, au Louvre, fin 2010.
C'est ça, exactement.
Et donc, dans une formule relativement resserrée, dans un salon du Louvre.
Une grande salle du Louvre, où moi je m'ennuie parfois au théâtre et je garde le souvenir inouï, parce que je regarde le spectacle au premier plan, et derrière, je voyais pas des copies, comme au Théâtre de la Ville, mais je voyais un Titien. Donc, on se reposait du théâtre en...
Mais... Il s'agissait d'un cimetière, alors c'était ce salon,
oui,
c'était un cimetière.
Non, c'est un espace privé, c'est un appartement. Peut-être que le musée était assimilé à un cimetière. Moi, j'ai pas eu ce sentiment. Et c'est vraiment une expérience formidable entre la vie des acteurs et la vie des tableaux.
Bernard Verlet et Bulogier dans l'horizon, pas le Titien, un cimetière.
Il est écrit quelque chose comme Von Obstfelder sur la pierre.
Tu n'as pas peur?
Non.
Pas du tout?
Non, je n'ai pas peur.
Je l'ai vu, et il était avec une femme.
Je n'ai vu personne. Calme-toi, il va arriver. Bien sûr qu'il va venir à l'enterrement de sa grand-mère.
Je l'ai vu avec une femme, et ce n'était pas sa femme.
Oui, oui.
Tu n'as pas peur?
Non.
Pas du tout?
Non.
Tu ne veux pas venir t'asseoir ici, près de moi, s'il te plaît.
Non, va t'asseoir et calme-toi.
Mais il a dit qu'il viendrait quand tu lui as parlé au téléphone.
Il viendra. C'est sa grand-mère qu'on enterre.
Il viendra, sûrement.
Oui, nous sommes seulement en avance.
J'ai si peur.
Arrête d'avoir peur.
Nous sommes âgés, nous aussi.
Oui.
J'ai peur que tu meures et que tu me laisses seule. J'ai si peur d'être seule. Et j'ai peur pour lui, pour ce qui va lui arriver. Je sais qu'il va mourir.
Nous allons tous mourir.
Mais les années ont passé si vite.
L'âge venant, mais il ne fallait pas parler d'âge, à Patrice Chéreau, les conditions économiques étant plus resserrées. Alors, le Salon du Louvre, des films avec peu de moyens, très beaux, parlons souvent de cimetière, et des lectures, ça vous a beaucoup frappé, comme des épures.
Oui, les lectures de Chéreau, c'était une expérience unique parce que c'était la présence incandescente d'un metteur en scène acteur. Il lisait comme personne d'autre, il racontait comme personne d'autre, il jouait, il entrait et il sortait du personnage, du texte. Et peut-être que le Grand Inquisiteur reste pour moi le moment le plus extraordinaire.
Le nouveau Dostoïevski.
De Dostoïevski, parce qu'en même temps, il y avait un mélange de réflexion philosophique et politique. C'est-à-dire que ce spectacle, moi, il est venu à Bucarest aussi, donc je l'ai accompagné à Bucarest, et j'ai vu à quel point, pour une lecture, il était préoccupé partout, par les éclairages, par les chaises. Donc il est, au-delà de cette liberté apparente qu'il affichait, qu'il aimait afficher, il est un maniaque de la précision, mais une précision qui ne se voit pas et qui n'est pas du tout rigide.
Vous étiez comme d'habitude à Bucarest quand il est mort et vous n'avez pas eu connaissance de ce tweet qui avait révolté pas mal de monde, d'une ministre socialiste dont on taira par charité le nom, mort de Patrice Chéreau d'un cancer du poumon. N'est-ce pas que la cigarette, il faudrait la vendre en pharmacie et l'enfermer dans le coffre à toxiques ? Il faut quand même que la politique soit tombée bien bas pour que du parcours politique, parce qu'il y a eu un parcours politique de Chéreau, une ministre supposée de gauche, ne retienne que cela.
La position de Chéreau pourrait se définir par un terme déjà célèbre d'un équilibre précaire. C'est qu'il n'a pas été tout à fait un artiste militant dans les années 68. Il a osé même émettre des réserves quant à l'engagement trop explicite. Pour lui, l'exigence suprême, c'était l'art, et c'est pour ça, je pense, qu'il a pratiqué un théâtre d'art impliqué.
Merci à vous, Georges Banu. Votre livre aux éditions Actes Sud sur Patrice Chéreau, celui de Mesdames Lévy et Tsikounas aux presses universitaires de Rennes, et puis sur notre site, tout le programme des journées qui sont consacrées à Chéreau à Paris à partir de demain jeudi. Vous avez l'art des titres, Mathieu Vidard.
C'est vrai, ça vous plaît, Jean?
Ah oui, oui, alors je vous laisse le dire.
Je ne sais pas celui que vous avez sous les yeux.
Moi, j'ai les origines de la sexualité humaine. C'est bien ça que vous traitez aujourd'hui?
Voilà, et les singularités de la sexualité humaine en particulier. Ce sera le thème de la tête au carré.
Merci, dans un instant.